La députée de Mirabel est depuis 4 ans critique de la coalition Avenir Québec en matière d'agriculture et d'agroalimentaire. Je me suis entretenue avec cette députée, elle-même agricultrice.
Je viens de ce milieu-là, donc oui, je connais très bien les dossiers. C'est mon monde. Ça fait 35 ans que je suis agricultrice. C'est mon mari qui avait pris la ferme familiale et je travaille avec lui depuis 34 ans. On produit de l'orge pour faire du malt parce qu'on a une microbrasserie, donc on fait de la bière. On a du raisin que mon mari a planté en 98 et maintenant on fait du vin. Et on a aussi courge, citrouille, potiron parce qu'on a développé à la ferme une façon de vendre nos produits, ce qu'on appelle agrotourisme. Alors, on fait de l'agrotourisme et j'ai une boutique, j'ai un bistrot où les gens peuvent manger des produits que l'on cuisine à base de nos produits de la ferme. Ils peuvent prendre notre bière, ils peuvent prendre notre vin.
La politique bioalimentaire déposée par le gouvernement du Québec, le gouvernement libéral, le printemps dernier, mais qui n'a pas été adoptée finalement à l'Assemblée nationale. À la coalition Avenir Québec, quelle suite allez-vous donner ou souhaitez-vous donner à cette politique bioalimentaire?
Ça me fait bien rire, M. Levac. C'est une politique bioalimentaire qui a été déposée juste avant qu'on tombe en campagne électorale. Le Parti québécois en avait développé une, souvenez-vous, souveraineté alimentaire. Ça nous avait pris 18 mois, mais c'est un gouvernement minoritaire, donc on est parti en campagne électorale avant que la politique soit développée. Maintenant, ça a pris 4 ans au gouvernement libéral de déposer une politique bioalimentaire, puis il présente juste avant les élections. Moi, je trouve que c'est un manque d'intérêt pour l'agriculture, parce que depuis 15 ans, je vous dirais même depuis 16 ans, il y a eu 9 rapports qui ont été déposés, et il n'y a eu aucun geste qui a été fait. On a juste à penser rapport Pronovo sur le sirop d'érable. Il y avait tellement de pistes où on aurait pu commencer à travailler, puis il n'y a rien qui a été fait. Ça a été des petits gestes très minimes qui font en sorte que l'agriculture au Québec, on est un peu en arrière des autres provinces.
À la coalition, souhaitez-vous poursuivre dans la lignée de cette politique bioalimentaire?
Souvenez-vous que le ministre Lessard voulait déposer un projet de loi après la politique bioalimentaire. Et ce projet de loi disait le prochain gouvernement devra faire en sorte, par une loi, de tenir cette politique, de la commencer et d'avoir un suivi annuellement. Et moi, je lui avais dit que je pouvais voter à cette loi-là si on rajoutait le mot libéral après gouvernement, parce que j'ai pas besoin du gouvernement libéral, j'ai pas besoin de ce parti-là pour me dire quand je vais la faire puis comment je vais la faire. Cette politique bioalimentaire, oui, émane du gouvernement libéral, mais elle émane du milieu. Et j'ai pas la prétention que si on refaisait encore l'exercice, qu'on arriverait à un autre document. On va arriver au même point. D'ailleurs, M. Villeneuve du Parti québécois avait dit que la politique bioalimentaire ressemblait étrangement à la souveraineté alimentaire. Puis moi, je trouvais ça un peu farfelu de dire ça, parce que c'est pas la politique du PQ, puis c'est pas la politique du libéral, c'est la politique que le milieu a bien voulu se rasseoir à la table et discuter et en arriver à une politique. Alors le gouvernement de la CAQ va prendre cette politique et va commencer à travailler. On n'a pas la prétention de dire aux gens qui se sont assis une xième fois alentour d'une table que là, on trouverait que cette politique-là, vu que ça vient du Parti libéral, qu'elle est pas bonne. Non, au contraire. Elle vient du milieu, elle a été travaillée par le milieu, pour le milieu. Alors, on va commencer à la travailler sans loi. On n'est pas obligé d'avoir une loi pour commencer à bouger.
À la Coalition Avenir Québec, quel type de ferme souhaitez-vous? Et vous-même, quel type de ferme souhaitez-vous pour le Québec?
Moi, j'aimerais ça qu'on ait une révolution là-dessus. Parce que on a des lois qui doivent être actualisées pour ouvrir toutes sortes de fermes. J'aimerais ça que les gens comprennent que j'aimerais pas ça qu'on ouvre une loi puis qu'on défasse qu'est-ce qu'on a. Exemple, la CPTAQ, on a une loi qui nous dit, ben si on achète une ferme qui est notre voisin, contiguë, bon ben ça va devenir un lot. Puis là, ben, quand on vient pour le vendre, ben, on pourrait le diviser si on a assez de terrain, mais on pourrait pas le fractionner parce que, au lieu d'avoir une relève qui prendrait le bloc au complet, on en aurait 4 qui aimeraient peut-être s'installer tranquillement puis d'avoir un peu moins de superficie. On ne peut pas. Ça nous ne permet pas avec la loi. Alors, il faudrait regarder à actualiser cette loi-là puis à donner la chance à des jeunes de s'établir sur des fermes et avoir des modèles d'affaires différents En autant qu'on produit sur les entreprises agricoles, qu'on produit sur nos terres agricoles, sur notre superficie agricole au Québec, je serais vraiment contente. Mais il faut laisser la chance à des jeunes qui ne sont pas apparentés, des jeunes qui sortent de l'école de Saint-Hyacinthe, qui aimeraient partir en affaires, mais qui n'ont peut-être pas la liquidité pour acheter une grosse ferme, bien, pourraient peut-être avoir la possibilité de s'acheter un plus petit lopin de terre puis être capable de la travailler. Il y a des mécanismes, mais par contre, ça prend tout le temps des demandes à la CPTAQ, puis une demande à la CPTAQ, bien, ça dure 2 ans à peu près. J'exagère à peine. Donc, là aussi, la CPTAQ, il va falloir qu'on revoie cette loi-là. La loi date... J'allais dire Mathusalem, mais c'est...
Mathusalem, c'était Jean Garon à l'époque.
Et c'est ça. Donc, j'ose pas le dire parce que j'ai un grand respect pour Jean Garon parce qu'à l'époque, il a révolutionné le monde agricole. Donc, ça nous prend une révolution. Pas une révolution tranquille, une révolution utile pour le Québec et pour tous ceux qui veulent faire de l'agriculture de façon différente. C'est des fermes familiales et on peut en avoir de petite taille et de grande taille qui restent toujours des fermes familiale.
Production locale, achat local, autosuffisance alimentaire, qu'est-ce que ça vous dit?
Bien, on est loin en arrière de ça. Moi, j'ai juste à regarder la production de bœuf. La production qu'on produit au Québec, il y a juste... c'est 20 % de la consommation du Québec. On est loin de l'autosuffisance. On est loin d'être fiers de notre production, parce que moi, je suis pas fière de ça. Là. C'est 20 % ça veut dire que sur 10 personnes, il y en a 2 qui vont manger du steak si jamais il y a une barrière qui ferme le Québec puis on peut pas rentrer d'autres produits qui viennent d'ailleurs. Alors, il y a un énorme travail à faire pour qu'on puisse augmenter ce pourcentage-là. On l'a déjà eu avec M. Garon. On avait atteint des pourcentages qui étaient beaucoup plus intéressants pour le Québec. Aujourd'hui, ben, je vous dirais qu'il y a quelques productions correctes, mais dans l'ensemble, on est en arrière. Il faut faire un effort supplémentaire. Il faut ouvrir la machine. Il faut aller à une vitesse grand V pour être capable de compétitionner puis d'augmenter notre pourcentage.
Production biologique, je les mets dans le même paquet, là. Production biologique, production en serre, ce sont des choses, des pistes de développement là, qu'on peut viser?
Bien, moi, je pense que oui. Au niveau du bio, en fait, moi, je trouvais qu'on était très frileux dans la politique bioalimentaire. Par contre, il faut commencer par le commencement et il faut y aller graduellement. Alors, il faut se donner des objectifs. Et la production devra augmenter au fil du temps parce qu'on veut manger mieux, on veut avoir des espaces sains. Nos lacs, nos rivières, nos cours d'eau soient moins atteints au niveau des pesticides. Ça, c'est une bonne volonté. Mais en parallèle, il faudra travailler sur la réciprocité des produits qui rentrent ici. Parce qu'on aura beau exiger à nos producteurs agricoles de faire des produits les plus sains, les plus normés au monde entier... Si on laisse rentrer des produits qui ne sont pas de la même catégorie, de la même réciprocité, donc ça donne rien. Moi, j'aime mieux qu'on regarde en parallèle, en même temps, la réciprocité des produits qui rentrent ici, comment on peut les normer, et puis nous, travailler à augmenter notre secteur bio. Mais ça va se faire tranquillement, mais je pense qu'il faut qu'on commence dès maintenant.
La relève, vous en avez glissé un mot tout à l'heure. Il y a des mesures particulières, précises, qui doivent être prises pour qu'enfin on trouve une solution pour faciliter l'accès à la production agricole.
Bien, il va falloir trouver une solution. Il va falloir que la financière agricole soit moins frileuse. Il va falloir qu'on regarde comment on peut aider aussi la vente d'un parent qui veut vendre à son enfant. Il est pénalisé au niveau fiscal. Alors, il faut regarder ça de très près. Il faut aussi donner la latitude à ces jeunes-là qui ont peut-être pas de liquidité pour partir en affaires, mais comment on peut les aider? Est-ce qu'on peut prendre une région avec une terre où on pourrait coopter, les gens travaillent ensemble, se font un petit peu de capital et de tranquillement, bon, ben quittent le groupe, ils vont s'acheter vraiment une petite ferme, qui vivent leurs rêves, trouver des solutions pour que tout le monde puisse avoir accès à leurs rêves. Et ça, il va falloir qu'on s'assoie puis qu'on regarde nos façons de faire, nos façons de penser, parce que ces jeunes-là ont droit à leur façon de voir les choses, leur façon de voir l'agriculture. Et moi, je pense que tout le monde aurait place à l'entour de la table.
le prix des terres, les questions d'accaparement, même si ce n'est pas généralisé, mais on s'inquiète de ça. Des interventions pensables de la part d'un gouvernement caquiste?
Moi, je suis pour différents modèles d'affaires. On est souvent pointé du doigt, puis on nous rapporte tout le temps le mot Pangea, Pangea, Pangea. Mais il y a une étude du gouvernement libéral où Pangea n'est pas le plus grand acheteur de terres. C'est un Québécois. Je le nommerai pas parce que je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là, mais c'est quelqu'un de la Rive-Sud qui a fait beaucoup plus d'achats de terres que Pangea. Par contre, Pangea, c'est un modèle d'affaires. Là, c'est nouveau. On est un peu déstabilisé. C'est quelque chose qui arrive là, depuis quelques années. Moi, je pense qu'il faut regarder où est-ce qu'ils s'en vont avec ça, mais il faut être très vigilant et regarder ce modèle d'affaires-là et de voir comment on peut améliorer notre façon de voir les choses, notre façon de faire pour que ce modèle d'affaires-là ne soit pas le seul, mais qu'il soit considéré comme tout autre modèle d'affaires. Il y a des gens qui s'y plaisent parce qu'il y a des gens qui adhèrent à ça. Donc, qui sommes-nous pour gérer comment un producteur agricole peut choisir son modèle d'affaires? Je pense qu'on peut les laisser faire pour le moment, mais il faut être toujours, toujours vigilant pour regarder vers l'avenir comment on garde nos terres agricoles. Puis on veut aussi des propriétaires de terres agricoles. On ne veut pas juste des locataires. Pour le moment, je crois qu'on peut les laisser aller un peu.
Question environnement. Il y a une situation qui s'est pas mal amélioré sur les fermes du Québec, dans le monde agricole du Québec, mais il y a encore des choses à faire. Les agriculteurs le reconnaissent eux-mêmes. Est-il pensable encore à des resserrements réglementaires si on parle néonicotinoïdes, glyphosate, des services conseils liés avec des professionnels qui, selon les dires de certaines personnes, n'auraient pas toujours l'indépendance souhaitée là, dans des dossiers comme ça?
Bien, je reviens toujours à ma réciprocité des produits. Tant et aussi longtemps qu'on va exiger à nos producteurs une façon de faire, il y a des coûts qui sont reliés à ça. Et moi, je ne suis pas prête à exiger à mes producteurs quelque chose que je n'exige pas des produits qui rentrent ici de d'autres producteurs de d'autres pays. Alors, il va falloir trouver un équilibre dans tout ça. Vous avez raison, les producteurs sont au rendez-vous. Les producteurs n'aiment pas faire des produits qu'eux ne mangeraient pas. Donc, ils sont toujours à l'avant-garde, ils sont toujours les premiers à essayer de trouver des solutions. Ils sont en recherche et développement. Souvent, c'est régi par leur fédération spécialisée. Il y a de la recherche et développement qui se fait. Mais en rajouter, moi, je pense qu'on se ferme les yeux. On essaie de rajouter à nos producteurs agricoles de la réglementation, puis on se ferme les yeux pour ce qui rentre. Fait que donc, c'est un peu hypocrite comme geste. Moi, je suis convaincue que si on regarde la réciprocité des produits qui rentrent ici, les gens vont aller vers les produits québécois parce qu'ils sont meilleurs, sont sains, sont cultivés de la bonne façon, c'est raisonné. Et il va falloir regarder qu'est-ce qui rentre ici. Est-ce qu'on veut qu'il rentre ici? Est-ce qu'on veut que les carottes de la Chine, où j'ai déjà vécu cette expérience-là, où il y avait des carottes de la Chine qui rentraient, qui avaient du BPC dedans, hein, qui avaient été détectées. Puis le Santé Canada m'avait dit, bien, la dose qu'il y avait dans la carotte, bien, ça passait. Mais si on avait fait ça ici, là, au Québec, je suis convaincue qu'on aurait été sur la sellette pas mal, tu sais. Un producteur qui aurait fait ça, ça aurait pas passé. Donc, ce qu'on exige à nos producteurs, il faudrait l'exiger de ce qui vient d'ailleurs.
La conscience au niveau de la société, ça inclut les agriculteurs, bien sûr, mais la population, les citoyens, sont très conscients là, de ces enjeux-là.
Bien, moi, je pense que oui, il faut juste les informer, il faut juste regarder, voir comment ils consomment. Souvent, c'est le portefeuille qui va parler, c'est le prix qui parle. Donc, je comprends que c'est le portefeuille qui parle, c'est le portefeuille qui va acheter, mais plus on va avoir de produits au Québec, plus on va être compétitif, plus notre produit va être excellent, va avoir une cote excellente, moi, je pense que les consommateurs vont se tourner vers les produits du Québec. C'est une question d'équilibre et c'est aussi une question d'éducation, dans le bon sens du terme.
Bonne information pour les citoyens.
Exactement.
Sans refaire l'ABC au complet de la gestion de l'offre et de l'ALENA, rappelez-nous la position de la Coalition Avenir Québec face à l'ALENA et la gestion de l'offre.
Bien, la gestion de l'offre, moi, ça fait 4 ans que j'en parle. Bon, au tout début, on avait parlé de fromages qui s'en venaient au Québec. Les fromages qui viennent de l'Europe, c'est 17 000 tonnes qui avaient été accordées. Là, on parle de la gestion de l'offre avec les États-Unis et le Mexique. Jamais, nous, on touchera à ça. On va défendre bec et ongle ce système-là, parce que ce n'est pas le système en tant que tel qu'il faut défendre. C'est toutes les régions qu'il faut défendre, parce que ce système-là permet aux producteurs agricoles des régions de vivre de leur production, de vivre décemment. Et le gouvernement ne donne aucun argent à ces producteurs-là parce qu'ils se sont dotés d'un système. Des producteurs de lait, on va prendre le lait, on s'en va à Gros-Pure, il paye tant pour son transport. Mais celui qui est à 200 km plus loin paye le même prix parce qu'ils se sont dotés d'un système où tout le monde, ça doit être équitable pour tous les producteurs agricoles. Donc, ils se sont dotés de ce système-là pour que tout le monde puisse avoir les mêmes dépenses et les mêmes revenus. Et le gouvernement ne donne aucun argent pour subventionner cette production-là. Alors, la gestion de l'offre a lieu d'être et on va la défendre. Moi, je pense qu'il faut arrêter de prendre l'agriculture comme monnaie d'échange. C'est assez. On a donné. Les producteurs ont assez donné. Ils ont déjà assez passé à la caisse. Prenez autre chose.
Transformation alimentaire, estimez-vous que c'est une force québécoise qui est sous-développée?
Ben oui, c'est sûr. Il va falloir qu'on leur donne aussi leur lettre de noblesse parce que c'est le secteur agroalimentaire en transformation, parce que c'est un secteur manufacturier qui est très important au Québec, puis on a tendance à l'oublier. Quand c'est sous le même ministère que le ministère de l'Agriculture, lorsqu'on parle de ce ministère-là, on va mettre en évidence l'agriculture, on va parler de l'UPA, on va parler des fédérations spécialisées, mais sous ce même ministère, on a la transformation agroalimentaire et souvent, c'est les enfants oubliés, les enfants pauvres de ce ministère-là et on aurait tout intérêt à travailler avec eux, à leur remettre leur lettre de noblesse. Il faut travailler avec la transformation.
Donc ça veut dire aussi une étroite collaboration entre le MAPAC, économie, sciences, innovation, environnement et tout ça, là.
Exactement, puis il faut travailler avec une culture différente de ce qu'on a maintenant. Ça veut dire que tous les ministères qui sont reliés doivent travailler en collaboration avec une ouverture pour qu'on puisse développer et au lieu d'être là à regarder qu'est-ce qui n'est pas bien fait, mais comment on peut faire mieux. Et donc, il y a une culture qu'on doit changer à ce ministère et moi, je pense que ça va bien se faire. On est rendu là et je pense que l'agroalimentaire comme l'agriculture devra partir du bon pied. Avec la politique bioalimentaire, je pense que ça serait un bon début.
Dernière question, la main-d'œuvre. On a un problème de main-d'œuvre au Québec dans à peu près tous les domaines, mais c'est particulièrement criant en agriculture et en agroalimentaire. Il faut remédier à ça.
Bien oui, je pense qu'il va falloir s'asseoir alentour de la table parce qu'on a discuté des salaires. Exemple, le salaire à 15 $, bien il va falloir y aller progressivement parce que les producteurs de petits fruits ne pourront pas arriver à payer ces salaires-là d'un coup. Il va falloir qu'on y aille graduellement avec des mesures qui vont probablement les aider à arriver à un 15 $ de l'heure éventuellement. Aussi, il va falloir regarder, on a un système avec des travailleurs étrangers qui viennent travailler sur nos fermes. Il va falloir actualiser aussi ce système-là, travailler avec le fédéral pour être capable et être en mesure de garder ce service-là, mais aussi d'ouvrir un peu ce service-là peut-être aux femmes, avoir plus de femmes qui vont travailler dans les serres, qui vont travailler parce qu'on a besoin de gens qui sont manuels souvent au niveau des légumes. Fait que donc, il va falloir comme regarder si on peut faire mieux avec le système qui est déjà existant. Moi, je pense qu'au niveau des jeunes étudiants, il faudrait peut-être regarder s'il y a une possibilité de changer les horaires, parce que je sais que les chambres de commerce en ont parlé, de regarder avec les horaires des étudiants où on pourrait peut-être changer un peu les horaires pour que les jeunes puissent travailler un peu plus longtemps sur les entreprises agricoles parce que les récoltes, c'est l'automne, à la fin de l'été, début de l'automne, et c'est souvent l'école qui recommence. Donc, il y a plein de possibilités qu'il faut regarder pour l'avenir et je pense qu'il faut le faire en collaboration avec plusieurs secteurs, dont les chambres de commerce qui pourraient très bien être assis alentour de la table pour qu'on puisse discuter comment on pourrait faire pour aider le monde agricole à avoir de la main-d'œuvre.
Madame Sylvie Damour, merci beaucoup. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne fin de campagne électorale.
Bien, merci beaucoup, M. Levac.
Ici Lionel Levac. D'ici le 1er octobre, je vous reparlerai de politique et d'élections. Entre autres, j'inviterai quelques représentants du monde agroalimentaire à exposer ce qu'ils attendent du prochain gouvernement. Au revoir.